Bien, merci Jean-Marie pour l'invitation. Merci à tous d'être restés. Alors, ce que je vais chercher à faire aujourd'hui, c'est à vous montrer comment est-ce qu'un chimiste peut chercher à développer des matériaux en se plaçant à la frontière entre chimie du solide, nanosciences, chimie des solutions, et aussi en gardant un œil sur ce qui se passe dans la nature. Alors, comme vous allez le voir, je vais beaucoup parler de nanomatériaux, donc je pense que c'est important que je les définisse pour commencer. Un nanomatériau, c'est un matériau qui a une échelle caractéristique inférieure à 100 nanomètres et qui apporte des propriétés bien spécifiques. Alors voilà ici trois exemples de matériaux massifs, très schématiques. Il y a trois façons de diviser la matière à l'échelle nanométrique. La première façon, donc, ça va être de le découper en morceaux. Dans ce cas-là, je vais créer des objets avec une dimension inférieure à 100 nanomètres, je vais créer des nanoparticules. Autre possibilité, je crée des trous, je vais faire un matériau poreux. Troisième possibilité, je vais texturer la surface. Donc dans les deux derniers cas, on parle plutôt de matériaux nanostructurés. Vous verrez que moi, je vais utiliser le terme nanomatériaux en englobant un petit peu tout ça, mais quand même, je vais parler beaucoup de nanoparticules aujourd'hui. Alors, dans tous les cas, je vais augmenter le rapport surface sur volume. Donc, ça va apporter des propriétés spécifiques liées à la surface. Par exemple, en catalyse, je vais augmenter le nombre de sites actifs par unité de masse de catalyseur. Et puis, je vais aussi avoir à chaque fois des domaines d'une dimension inférieure à 100 nanomètres, ce qui va modifier les propriétés, par exemple, par des effets de confinement, notamment sur la luminescence, les propriétés optiques. Alors, donc les nanomatériaux en fait sont déjà commercialisés dans un grand nombre de domaines, quand même essentiellement, si on s'intéresse aux nanoparticules, essentiellement quand même en tant que renfort mécanique ou additif pour contrôler la rhéologie, aussi dans l'affichage, vous connaissez les boîtes quantiques utilisées dans les téléviseurs de nouvelle génération, mais aussi évidemment en catalyse, je l'ai dit parce que ça a un intérêt pour les aspects surface, en médecine parce qu'on va pouvoir vectoriser un médicament dans le corps, et j'ai oublié de le mentionner, mais aussi évidemment technologie de l'information et de la communication, avec notamment le stockage de données. Donc ici, de façon très arbitraire, je vous ai cité trois entreprises françaises dont le cœur de métier, c'est le développement de nanomatériaux. D'accord ? Alors j'attire votre attention sur un point, c'est la composition, les compositions qui sont utilisées ici. Donc vous voyez quand même silicium, carbure de silicium, oxyde de silicium ou de titane, etc. Un petit peu de chalcogénure, mais quand même on a une diversité qui est extrêmement restreinte si on compare ça à l'ensemble des solides qu'on connaît par la chimie du solide. Et Jean-Marie en a montré des bons exemples tout à l'heure. Donc vraiment une diversité extrêmement limitée. Évidemment, cette diversité, elle est un petit peu plus large si on s'intéresse au monde académique. Voilà une étude bibliographique avec le mot-clé nanoparticules. Et là, on se rend compte que tout de même, on reste confiné à des familles de matériaux qui sont quand même assez restreintes. Donc essentiellement des oxydes, plutôt monocationiques, des polyanioniques, carbonates, phosphates, sulfates, puis aussi des métaux et des alliages, notamment des nanoparticules d'or pour leurs propriétés plasmoniques. Alors encore une fois, c'est vraiment un domaine de composition qui est quand même relativement restreint, notamment si on peut s'intéresser à ce qui se passe dans la littérature. Je vais juste vous donner quelques exemples où on voit ici par exemple un oxyfluorure développé pour faire de la photoélectrolyse de l'eau pour la production d'hydrogène. Ici, un oxysulfure dopé avec différents éléments pour faire de l'imagerie biomédicale, ou encore des perovskites halogénées, très intéressantes pour le photovoltaïque, mais aussi pour les technologies de l'information, de la communication et les calculs quantiques. Bon, et bien en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on était capable d'étudier ce type de matériaux à l'échelle nanométrique, eh bien, on devrait avoir l'émergence d'autres types de propriétés, ou au moins l'amélioration des propriétés. Par exemple, eh bien, je l'ai dit, en catalyse, on peut peut-être chercher à augmenter l'activité par unité de masse de catalyseur. Et puis aussi, eh bien, si on a des petits objets, on va pouvoir les vectoriser plus facilement dans le corps. Donc, il y a vraiment des opportunités qui sont énormes à aller chercher des solides que je qualifierais de complexes par leur composition chimique, mais aussi par leur structure cristalline. Donc, s'il y a un intérêt, donc pourquoi est-ce qu'il y a finalement si peu de gens qui travaillent sur ce domaine ? Est-ce qu'il n'y a pas une limitation fondamentale ? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la très grande majorité des solides qu'on connaît actuellement, qui sont répertoriés, sont en fait obtenus par des voies que je qualifierais de traditionnelles de la chimie du solide, ou alors des voies céramiques, c'est-à-dire très schématiquement, on mélange des poudres et on chauffe très fort. Donc pour faire ça, on chauffe très fort parce qu'on veut activer la diffusion des éléments au sein du solide. Mais dans ce cas-là, on va apporter énormément d'énergie. Si on apporte énormément d'énergie, ben on va très vite parcourir le chemin réactionnel jusqu'à l'état le plus stable. Et donc, on va obtenir le solide thermodynamique. On va avoir aussi une forte croissance des grains et on va obtenir des matériaux massifs. Donc, très difficile de s'arrêter au milieu du chemin et d'aller chercher des états plus hauts en énergie, donc des états métastables. Alors, quand je parle d'états métastables, en fait, on peut envisager deux choses. On peut envisager des solides massifs, métastables par leur structure cristalline, mais on peut aussi envisager des nanomatériaux, puisque les nanomatériaux, et surtout les nanoparticules, ont une contribution à leur énergie qui est la contribution de surface. Ça coûte de l'énergie de fabriquer une surface. D'accord ? Donc, les nanomatériaux sont intrinsèquement métastables. Ça veut donc dire que quand je vais vous parler maintenant de solides métastables, j'envisagerai des solides massifs métastables, mais aussi des solides nanostructurés. Et pour le chimiste du solide, si je devais simplifier la définition de la chimie des matériaux, ben je dirais que la chimie des nanomatériaux, c'est une chimie des solides fortement métastable. Ça veut donc dire que les techniques usuelles de synthèse ne sont pas adaptées à l'obtention de ces solides métastables, et donc il va falloir développer des voies de synthèse qui sont spécifiques. Alors, ceci dit, on peut quand même remarquer que le vivant, en réalité, sait déjà très bien manipuler les objets nanométriques. Je vais vous en donner trois exemples. Ces bactéries magnétotactiques qui biominéralisent des nanoparticules d'oxyde de fer pour fabriquer leur aimant et leur propre GPS. Des diatomées qui sont des microalgues unicellulaires qui fabriquent leur carapace de silice, et cette carapace de silice, elle est poreuse à différentes échelles, notamment à l'échelle nanométrique. Ces pores permettent un échange de nutriments avec l'extérieur, mais comme ils sont ordonnés, ils permettent aussi de filtrer la lumière pour couper les UV qui seraient dommageables pour l'organisme, mais laisser passer la lumière du visible pour faire de la photosynthèse. Troisième exemple, ces mollusques qui broutent de l'algue. Vous avez une vision de près ici des dents de ce mollusque. Et si on regarde vraiment de près, on voit qu'à l'extrême bord, ici, vous avez des nanoparticules d'oxyde de fer qui sont intéressantes pour des propriétés d'abrasion. Un peu plus profondément, vous avez des nanobâtonnets d'oxyde de fer qui sont alignés, qui apportent un matériau très dur à la surface de ces dents. Et à cœur, vous avez un phosphate amorphe de fer qui est mou. Et en fait, ce contraste matériaux durs en surface, matériaux mous à cœur, permet d'éviter la propagation des fissures. Donc là, vous avez trois exemples de nanomatériaux qui sont développés par le vivant pour des fonctions spécifiques. Ce qui est aussi intéressant de voir pour un chimiste de synthèse, c'est que le vivant utilise aussi les nanomatériaux dans les processus de fabrication de ce type d'objet. Donc ici, par exemple, une épine d'oursin qui est fracturée, si on regarde de plus près, elle est faite de ces structures courbées qui, pour un cristallographe, se comportent comme un monocristal de calcite, c'est-à-dire un polymorphe de carbonate de calcium. Ceci dit, si moi je fais de la calcite par précipitation dans l'eau, je vais obtenir un cristal qui est énorme, qui n'a pas du tout la même morphologie. Comment expliquer cette différence de morphologie ? Eh bien, si on regarde de plus près, on va s'apercevoir qu'en réalité, ces objets sont fabriqués par l'assemblage de nanoparticules de carbonate de calcium amorphe qui vont cristalliser au cours de cet assemblage en calcite avec une seule orientation cristallographique. Donc, ce qui est intéressant pour moi en tant que chimiste de synthèse, c'est d'apercevoir que là, l'organisme, il a été capable de travailler pour commencer avec une phase amorphe, c'est-à-dire désordonnée, donc haute en énergie, métastable, et en plus d'utiliser des nanoparticules qui, je l'ai dit, sont intrinsèquement métastables. Donc là, en fait, on a un bel exemple d'une synthèse sous contrôle cinétique faite par cet organisme. Ceci dit, comme je vous l'ai montré jusqu'ici, là, on a des exemples avec des oxydes de fer, des oxydes de silicium, des carbonates de calcium. Finalement, à nouveau, la diversité elle est relativement restreinte. Donc, comment est-ce qu'on peut chercher à s'inspirer de ce type d'approche, mais pour faire du contrôle cinétique de solides avec des compositions et des structures cristallines qui sont beaucoup plus complexes ? Eh bien, je vous l'ai dit, on vient de le voir. Donc, le vivant est capable de le faire sur une diversité assez restreinte, eh bien, on peut remarquer qu'en réalité, dans la nature, on peut trouver d'autres exemples de matériaux métastables qui, en réalité, ont été développés sans l'intervention directe du vivant. Voilà un exemple de nodules d'oxyde de manganèse qui croissent au fond des océans pendant des millions d'années. Si on regarde de plus près, à nouveau, vous voyez des objets nanométriques. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une intervention du vivant pour développer des matériaux métastables. Donc là, on est dans le domaine de la bio-inspiration et des matériaux bio-inspirés. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à développer une chimie qui serait géo-inspirée ? Donc, ça veut donc dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est est-ce qu'on ne peut pas envisager la Terre avec la grande diversité des conditions physico-chimiques accessibles comme tout simplement un laboratoire de chimie ? Alors pour faire ça, il faut quand même se poser la question de l'ensemble des conditions physico-chimiques qui peuvent être accessibles. Donc pour ça, voilà un diagramme des pressions accessibles, présentes sur Terre et en fonction de la température. Donc voilà l'atmosphère, la croûte terrestre, le manteau terrestre, le cœur, le géotherme moyen. Je vais superposer là-dessus le diagramme de phase de l'eau salée, qui correspond à la salinité des océans. Les océans, justement, sont en général plutôt dans cette gamme-là. Un dernier domaine, c'est un domaine qui est assez vaste et qui englobe des conditions de volcanisme, des fumeurs hydrothermaux qu'on trouve dans certaines failles, et les évaporites, qui sont des sels fondus sur lesquels je reviendrai plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que nous, on se place dans un laboratoire de chimie, je dirais, traditionnelle, chimie du solide. Voilà des réactions solide-solide, voire solide-gaz. En général, on se place plutôt là, on monte rarement à très haute pression. Et puis si maintenant on s'intéresse aux réactions en phase liquide, on a accès à des réacteurs qui nous permettent de travailler sous pression. En général, par des réactions hydrothermales ou solvothermales, on est plutôt dans cette gamme-là. Bon, ici, le message, c'est finalement comparé à ce que la nature propose, on travaille sur des gammes qui sont quand même extrêmement restreintes. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à aller chercher dans des conditions un petit peu plus larges ? La réponse est oui, parce que si on s'intéresse à des synthèses qui sont faites actuellement, on s'aperçoit que certaines d'entre elles peuvent être reliées à des phénomènes géologiques. Par exemple, les conditions de refroidissement très rapides qu'on a dans le volcanisme, eh bien, ces mêmes vitesses de refroidissement et aussi de chauffe sont impliquées dans des techniques de synthèse d'alliage haute entropie pour le développement de catalyseurs, notamment de conversion du diazote. Les conditions hydrothermales, j'y reviendrai, on sait depuis bien longtemps que ça permet de développer des matériaux fonctionnels pour une grande diversité de domaines d'application. Il y a des gens aussi qui s'intéressent à l'eau supercritique, notamment à Bordeaux, pour développer des additifs pour faire des ciments à bas coût carbone. Et puis les sels fondus avec les évaporites, je vais y revenir tout à l'heure, ça peut permettre de développer des matériaux intéressants, notamment des catalyseurs. Puis ensuite, on rentre dans le domaine des hautes pressions, relativement faible pression, tout est relatif, avec le développement de matériaux à haute densité énergétique. Et puis aussi, si on va chercher à très haute pression, eh bien, notamment un sujet qui est très chaud en ce moment, c'est le développement de supraconducteurs à température ambiante. Vous voyez que depuis quelques années, en fait, on a en réalité explosé le plafond de verre sur les températures critiques des supraconducteurs. C'est parce qu'on les fabrique et qu'on les étudie maintenant à très haute pression, notamment avec des hydrures. Alors, à partir de maintenant, je vais aborder certaines questions qui, à mon avis, sont intéressantes pour la chimie du solide. Et je vais me poser la question à chaque fois, comment est-ce que utiliser les nanosciences et s'inspirer de conditions géologiques peut me permettre de répondre à certaines de ces questions. Alors, voilà un premier cas d'école, une première question, je l'ai oubliée. Comment concevoir de nouveaux oxydes métastables ? Et je vais me placer dans le cas où je fais de la synthèse dans l'eau. Comment est-ce que les synthèses dans l'eau peuvent me permettre de répondre à cette question ? Je vais prendre un cas d'école qui est le développement de matériaux électrochromes, c'est-à-dire qui changent de couleur quand on leur applique une différence de potentiel. En général, ça marche par insertion et désinsertion de cations. Autrement dit, pour développer un vitrage électrochrome, en fait, on peut envisager de fabriquer une batterie à la surface du vitrage sur une vitre conductrice. Et par insertion de cations ou désinsertion, on va avoir un changement de couleur. D'accord ? Donc, des matériaux phares pour faire ça, ce sont les oxydes de tungstène. Il y a une grande diversité de compositions aussi de structures cristallographiques. Ce qu'il faut retenir, si on veut développer des oxydes de tungstène pour des matériaux électrochromes, eh bien, c'est que dans le cahier des charges, on doit avoir la capacité du matériau à faire une bascule redox entre du tungstène 6 et du tungstène 5. Donc si je suis avec un matériau qui est uniquement tungstène 6, WO3, je vais avoir un matériau complètement oxydé qui va être blanc ou transparent selon la mise en forme. Si maintenant j'insère du lithium ou des protons, je vais réduire une partie du tungstène 6 en tungstène 5 et je vais avoir du transfert de charge d'un site de tungstène à l'autre, ce qui va rendre le matériau bleu. Évidemment, il me faut des sites cristallographiques pour l'insertion cationique et qui soient réversibles, une topologie qui me donne un accès facile aux sites cristallographiques. Et là, dans ce cas-là, je m'intéresse à des matériaux qui sont stables en électrolytes aqueux acides. Alors, comment est-ce que je peux développer un matériau qui remplit ces critères en travaillant à basse température, dans l'eau et en développant des nouveaux solides métastables? Donc, je veux une valence mixte tungstène 5, tungstène 6. Si je travaille par précipitation dans l'eau d'un oxyde, vraiment, l'outil de base, c'est le diagramme de Pourbaix. Donc, je regarde mon diagramme de Pourbaix et je vois que finalement, la coexistence tungstène 6 et 5, il y a un domaine de pH qui est quand même relativement restreint, vous voyez, en dessous de 4. Est-ce que je ne peux pas essayer de fixer un peu plus précisément cette valeur de pH? Eh bien, la réponse est oui. Je peux. Je sais que pour la plupart des oxydes de tungstène, le pH de moindre solubilité est aux alentours de 0,5-0,6. Ça veut donc dire que si je me place à ce pH-là, eh bien, je devrais empêcher le matériau que je vais précipiter de se redissoudre et de se réorganiser pour en reprécipiter. D'accord ? Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je travaille à cette valeur de pH, où je vais couper les phénomènes de solubilité, je vais empêcher l'évolution du matériau, donc le solide que je vais précipiter, je vais limiter sa réorganisation. Autrement dit, je vais faire une trempe chimique des états métastables, donc du solide que j'ai commencé à former dès le départ de la précipitation. D'accord ? Pour éviter encore plus la réorganisation, je vais travailler à basse température, ici à 95 degrés. Alors je fais ça, et le résultat, c'est ce type de cliché. Alors, j'ai pas mis une microscopie en champ plus large, mais vous voyez ici un schéma. Donc, il faut imaginer des plaquettes qui ont une épaisseur de l'ordre de 5 nanomètres. Et là, vous voyez une plaquette vue de dessus en microscopie électronique en transmission. Ce qui est important de retenir dans cette technique d'imagerie ici, c'est que chaque point brillant, c'est une colonne d'atomes de tungstène. Donc là, je suis en train de voir l'ordonnancement des cations métalliques dans cette phase. Et sur ces points qui correspondent aux colonnes d'atomes de tungstène, bah, je peux mettre mes atomes de tungstène, les oxygènes qui sont dans la sphère de coordination, et ça me permet d'obtenir la structure cristalline de ce composé, avec ici des octaèdres WO6. Ce qui est extrêmement intéressant, en réalité, c'est que là, j'ai une nouvelle structure cristalline qui ne correspond pas à d'autres polymorphes de WO3 que j'avais jusqu'ici. Alors, quel est l'intérêt de faire ce type de matériaux ? Voilà. Eh bien, c'est que vous allez voir, en insertion de lithium, de protons, excusez-moi, je suis en milieu acide, eh bien, je vais colorer la face, je vais réduire le tungstène 5, et ensuite, je vais le désinsérer pour décolorer ce matériau que j'ai déposé sur un verre conducteur. Ce qui est intéressant, c'est que comparé à un polymorphe qui était connu, eh bien, en réalité, je vais avoir un switch redox qui est très rapide, et je vais avoir une amplitude colorimétrique qui est très intéressante. Ça, c'est dû à notamment le fait que j'ai créé d'autres sites d'insertion dans cette structure plutôt que dans la structure classique. Et en plus, j'ai une topologie qui me permet d'avoir un accès très facile à ces sites d'insertion. Alors, comment est-ce que je sais que j'ai une phase qui est métastable? Eh bien, tout simplement, si je traite thermiquement ce matériau, je vais avoir des transitions de phase vers des phases qui sont déjà connues et qui sont beaucoup plus stables. D'accord ? Donc là, j'ai vraiment une preuve de la métastabilité de ce solide. Et si je dois résumer ici l'approche, j'ai été capable d'obtenir ce solide métastable parce qu'on a une très bonne connaissance des mécanismes de formation du solide dans l'eau, et notamment je sais sur quels leviers expérimentaux je peux travailler, donc ici pH et température, pour limiter la réorganisation du solide et donc isoler des états métastables. Alors en réalité, il y a peut-être un autre effet qui rentre en jeu ici, qui est vraiment lié à l'échelle nanométrique. Alors quel est cet effet ? Eh bien, rappelez-vous, je vous ai dit que des nanomatériaux, et là je vais prendre le cas de nanoparticules, sont intrinsèquement métastables à cause du coût énergétique de la création de la surface. Eh bien, on peut aussi remarquer qu'en général, ce n'est pas une règle absolue, mais en général, plus un matériau est stable, plus il sera dense, parce que je vais augmenter le nombre de liaisons chimiques par unité de volume. Et plus il sera dense, plus ça sera aussi difficile de créer de la surface, parce qu'il va falloir que je coupe plus de liaisons. Autrement dit, plus un matériau est stable, plus il va avoir une énergie de surface élevée. Encore une fois, il y a des exceptions à cette règle. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que si je considère deux solides, deux polymorphes de WO3, par exemple, vous avez l'écart énergétique en général entre des polymorphes ici, eh bien, je peux très bien envisager qu'en travaillant à l'échelle nanométrique, évidemment, les deux solides vont être déstabilisés, mais le solide initialement plus stable va être plus déstabilisé parce qu'il a plus une énergie de surface plus importante. Autrement dit, à l'échelle nanométrique, je vais avoir une inversion de stabilité des phases, et ce qui était métastable à l'état massif devient thermodynamiquement stable à l'échelle nanométrique. Donc cet effet, eh bien, peut-être qu'il rentre en jeu sur cette phase obtenue dans l'eau, j'en ai pas la preuve. Par contre, il y a d'autres systèmes pour lesquels on sait exactement que ça se passe comme ça, parce qu'il y a des calculs d'énergie de surface qui ont été faits. Voilà, et à chaque fois avec des propriétés intéressantes à la clé. Par exemple, ici, un polymorphe de V2O3, d'oxyde de vanadium, qui est capable de faire du stockage réversible de l'oxygène. Ici, un oxyde de titane qui montre des transitions de phase sous impulsion lumineuse, qui a été développé par des groupes au Japon pour faire du stockage optique de l'information. Ou encore, en dessous, ici, une phase assez connue, Fe2O3, qui a une haute coercivité magnétique et qui permet d'envisager du stockage magnétique de l'information. Donc à chaque fois, ici, des solides qui n'ont pu être obtenus que parce qu'on les a développés à l'échelle nanométrique, et vous le voyez, avec des propriétés qui sont vraiment intéressantes du point de vue application. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, cet effet, on le voit à différentes températures de synthèse. On le voit, bon, je vous l'ai dit, a priori aussi dans la chimie dans l'eau, mais aussi, là, c'était une synthèse colloïdale en solvant organique à 300 degrés. Et puis même, on peut travailler à température beaucoup plus élevée, où là, il va falloir utiliser des gabarits, des moules, qui vont encapsuler les particules de départ et donc les empêcher de croître quand on va chauffer. D'accord ? Alors ceci dit, ces moules, ces gabarits, ont quand même des petits défauts et peuvent nous poser problème selon les propriétés qu'on va chercher. Notamment, on ne va plus avoir accès à la surface, donc si on veut faire de la catalyse, ce n'est pas du tout intéressant. Et aussi, ce gabarit, ici c'est de la silice, peut aussi réagir avec le matériau. Donc ça peut être un problème. Alors, notamment, qu'est-ce qu'il en est si on va chercher à développer d'autres types de systèmes ? Vous avez ici un composé samarium bore, un borure métallique. Chaque cluster est un cluster B12, il y a 12 atomes de bore, et toutes les liaisons chimiques que vous voyez sont des liaisons covalentes entre des atomes de bore. Ça, c'est une maille cristalline, il y a plus de 1500 atomes dans cette maille, donc c'est une structure qui est extrêmement complexe, et on peut très bien imaginer que pour cristalliser ce solide, il va falloir apporter énormément d'énergie pour ordonner ce réseau de liaisons covalentes. Ça va être donc très difficile, on ne sait pas faire ça à basse température. C'est quand même un souci parce que ce matériau, par exemple, peut être intéressant pour faire de la conversion thermoélectrique de l'énergie, c'est-à-dire, par exemple, récupérer des pertes de chaleur pour les convertir en électricité. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir de la conduction dans le matériau, donc j'ai besoin d'avoir des interfaces qui vont être capables de transférer les charges. Donc les composites que je vous ai montrés avec le gabarit qui est isolant électrique, ce n'est pas du tout une bonne idée. Comment s'en sortir ? Eh bien, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce problème, il se pose très souvent pour beaucoup de matériaux qui ont une forte composante covalente à la liaison chimique. À chaque fois, il va falloir travailler à relativement haute température pour cristalliser ces solides, et donc il va falloir lutter pour trouver des moyens d'abaisser la température pour aller chercher des états métastables quand on a beaucoup de liaisons covalentes. Alors, comment faire ça ? Eh bien, ce que je peux remarquer d'un point de vue, donc comment développer des protocoles sans gabarit ? Eh bien, d'un point de vue très naïf, si je résume ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est que les réactions en solution, je vous ai montré un cas de synthèse dans l'eau à basse température, permettent d'isoler des phases métastables et des objets nanométriques parce que j'ai beaucoup de leviers à ma disposition pour contrôler la formation du solide. Par contre, je n'arrive pas à cristalliser des phases avec une forte composante covalente à la liaison chimique. Au contraire, si je suis à haute température, alors là, je sais que je peux cristalliser ces phases-là, mais je vais obtenir les solides thermodynamiques et je vais avoir une forte croissance des grains, donc des matériaux massifs. Donc une approche qui serait finalement d'un point de vue très naïf, ce que je peux me dire, c'est que bon, bah, peut-être que je vais essayer de chauffer suffisamment pour avoir la cristallisation de ces structures complexes, mais suffisamment peu pour éviter la croissance des grains et éventuellement m'arrêter à des états métastables. Donc ça veut donc dire qu'il va falloir que je sois capable d'accélérer les réactions par rapport à ce qui se passe en général en phase solide et aussi chercher à limiter la taille des objets. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Une première façon, c'est d'utiliser des réactions topotactiques à l'état solide, c'est-à-dire d'utiliser des transformations qui vont utiliser seulement de faibles déplacements d'atomes. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, que je vais réfléchir au solide que je vais utiliser au départ pour m'assurer que je vais pouvoir le transformer des réactifs très facilement pour obtenir une autre phase, parce que ça va coûter moins d'énergie d'avoir de très faibles déplacements atomiques. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, parce que je pense que vous allez avoir un séminaire sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Autre possibilité, c'est de me dire qu'un moyen d'accélérer une réaction par rapport à une réaction qui se fait en général à l'état solide, c'est de travailler dans un liquide où je vais augmenter la fréquence des chocs. Comment faire ça? Il me faut un liquide qui soit stable en température, donc je l'ai dit, entre 300 et 1000 degrés, donc je peux oublier les liquides organiques. Et travailler dans l'eau à ces températures, ça veut dire travailler sous pression. C'est possible, mais c'est très coûteux et c'est quand même relativement difficile. Alors comment faire? Eh bien, je peux à nouveau me tourner vers des phénomènes géologiques. Et ce que je peux regarder, ce sont ces rubis bien spécifiques, qui sont des rubis sang de pigeon qu'on trouve dans certaines parties de l'Inde et notamment au Pakistan. Et en fait, dans ce cas-là, ces rubis, on les trouve, ils sont engoncés dans une gangue de sel qui est essentiellement NaCl, KCl et puis aussi du sulfate de calcium. Donc la cristallogénèse, en fait, dans la nature de ces rubis, elle est assez simple. En réalité, on avait des mers il y a très très longtemps qui se sont évaporées, les sels se sont déposés, on a eu une couche de sel, un mélange de sel qu'on appelle une évaporite. Et ensuite, par des processus de subduction, de tectonique des plaques, eh bien, ces évaporites, cette couche de sel a été emmenée en profondeur, elle est montée en température au-dessus de 600 degrés, et là, le mélange de sel a commencé à fondre. Et il se trouve que dans les endroits où ces sels sont fondus, eh bien, en fait, ce liquide est en sandwich entre deux plaques de marbre qui contiennent de l'aluminium, des sels d'aluminium, des cations, aluminium, chrome et vanadium, qui sont en fait les constituants de ces rubis. Et donc dans ce cas-là, eh bien, le sel fondu va venir dissoudre ces constituants des couches de marbre, et quand la concentration dans le sel sera suffisamment importante, on va avoir la précipitation de ces rubis. Alors évidemment, ça se place sur une échelle de temps qui est géologique. Donc ce que moi j'en tire comme enseignement d'un point de vue synthèse, c'est que finalement des mélanges de sels inorganiques sont intéressants pour faire de la synthèse à haute température, parce qu'en tout cas ils sont thermiquement stables. Donc concrètement, voilà un exemple, un mélange de tectique LiCl-KCl qui fond à 350 degrés. Au-delà de ce point de fusion, c'est un liquide qui a la viscosité de l'eau, donc je peux envisager de faire la synthèse là-dedans. Donc, viscosité de l'eau, je l'ai dit. Stabilité thermique, ça dépend énormément de la composition, mais en général, 900 degrés. Pression de vapeur négligeable, vous allez voir un peu plus tard que pour nous, c'est très important, ça. Et on dit souvent dans la littérature que ça permet de solubiliser énormément de choses. En réalité, si vous commencez à chercher des valeurs de solubilité, eh bien, on se rend compte que finalement, on ne connaît pas encore grand-chose sur le sujet. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe, une synthèse en sel fondu? Eh bien, je mélange sous forme de poudre les sels qui fourniront le milieu fondu et je mélange aussi les réactifs qui sont sous forme de poudre. Une fois que c'est mélangé, eh bien, je monte en température, le sel fond et la réaction entre les réactifs va avoir lieu dans l'état liquide. Une fois que la réaction est terminée, je redescends en température, le sel se fige, il va encapsuler le solide que j'ai formé, les particules, et ensuite je vais le laver, par exemple à l'eau, pour récupérer une poudre qui contient ce matériau. Alors, ça a l'air très simple comme ça, en réalité, il y a des choses qu'il faut garder en tête. La première chose, c'est que c'est extrêmement difficile de s'affranchir de l'ensemble du sel qu'on a formé. Est-ce qu'on ne va pas avoir des inclusions de sel dans le matériau? Est-ce qu'il n'y a pas du sel qui va rester en surface? Vous verrez que ça peut être un problème, mais qu'on peut aussi tirer parti de cette réactivité des sels. Et puis aussi, ce sont des milieux qui sont assez corrosifs, donc il y a vraiment un savoir-faire à acquérir sur quel récipient je vais utiliser avec quel milieu réactionnel. Alors pour les gens qui font de la chimie du solide, eh bien vous me direz qu'en fait on n'invente rien ici parce qu'on fait de la synthèse en flux qui a été développée il y a bien longtemps, notamment par Henri Moisan et Paul Lebeau. Je vous invite à revisionner le cours de Jean-Marie en 2016 sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les synthèses en flux ont été développées historiquement pour faire de la croissance de monocristaux, donc des objets qui sont très gros. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est le contraire, et isoler des états métastables. Ça veut dire que plutôt que traditionnellement, on va se placer sous contrôle thermodynamique, là, je cherche à faire des réactions sous contrôle cinétique. Donc, c'est comme ça qu'on va revisiter des techniques traditionnelles et essayer de jeter un regard nouveau sur ces techniques. Comment faire du contrôle cinétique dans ces milieux-là? Ben, principalement, je vais m'intéresser au profil de température et je vais m'intéresser à la réactivité chimique dans ces sels fondus. Donc, première question dans ces sels fondus, c'est comment est-ce que je peux chercher à orienter les chemins réactionnels? Comment est-ce que je peux orienter la synthèse vers une phase plutôt qu'une autre? Et pour ça, je vais prendre un cas d'école qui est cette perovskite, lanthane 2 tiers, strontium 1 tiers et méno 3. Elle est connue beaucoup par les physiciens pour la magnétorésistance colossale. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Elle est aussi intéressante pour les gens qui développent des piles à combustible en tant qu'électrocatalyseur sans métaux précieux pour la réaction de réduction du dioxygène. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a un cahier des charges assez long à remplir pour faire un électrocatalyseur qui soit performant. Ce qu'on peut tout de même retenir, c'est qu'on veut de la conduction électronique, mais on veut faire de la catalyse, donc ça serait intéressant d'augmenter le nombre de sites actifs par unité de masse du matériau, donc on veut une haute surface spécifique. On sait que dans ce matériau, les défauts cristallins ont un effet délétère sur la conduction électronique, et il faut chercher à éviter des défauts cristallins tout en gardant des nanostructures. Autrement dit, là je suis en train de dire qu'il va falloir que je développe des matériaux qui ont une qualité cristalline qui va mimer ce qu'on peut obtenir par des techniques physiques, notamment de film épitaxié. Et d'un autre côté, je veux développer des rapports surface sur volume qui sont élevés, donc des nano-objets. Donc ça veut dire que je vais chercher à combiner deux mondes ensemble, deux mondes qui ne s'aiment pas trop en général. Donc c'est vraiment un défi de synthèse. Alors comment s'en sortir? Eh bien voilà ce qu'on a fait. On a travaillé dans un nitrate de potassium fondu dans lequel on va décomposer des nitrates métalliques, les précurseurs donc de manganèse, lanthane et strontium. Ce qui est très important ici, c'est qu'on s'est intéressé au profil de température. On fait une chauffe très rapide pour initier la réaction très rapidement et que toutes les particules se forment en même temps et qu'il y en ait beaucoup qui se forment. Ça s'appelle la nucléation. Et ensuite, on va faire une trempe du milieu, c'est-à-dire qu'on va abaisser brutalement la température en quelques minutes de 600 degrés à la température ambiante. Et ça va les empêcher de coalescer, ça va les empêcher de croître énormément. En faisant ça, on arrive à obtenir des cristaux cubiques avec une distribution de taille centrée à 20 nanomètres qui est en fait remarquable si on considère qu'on n'utilise pas du tout de ligands organiques en surface, ce que les gens utilisent en général pour faire des nanoparticules en solvant organique pour avoir ce type de contrôle de taille. Et bien là, on arrive à l'éviter juste en jouant sur le profil de température. Donc, si on utilise des techniques de cristallographie et de microscopie et aussi d'analyse chimique, on voit qu'en fait, en réalité, on a exactement la composition et la structure qu'on attendait. Pour s'en convaincre, on peut regarder quelques clichés de microscopie électronique en transmission. À nouveau, si on regarde de plus près ici, vous avez les colonnes de lanthane strontium, là, les colonnes de manganèse, donc c'est exactement la structure perovskite qui est attendue. Avec d'autres types d'imagerie, on arrive aussi à voir les colonnes d'éléments légers, d'oxygène, notamment. Alors, ceci dit, c'est très... Ah oui, et par contre, on voit ici juste quelques défauts cristallins que je vous ai mis en évidence avec des flèches rouges. Donc, il y a très peu de défauts cristallins dans cet objet. Donc, en fait, on a rempli le cahier des charges. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, plutôt que d'aller faire cette phase cubique, est-ce que je ne peux pas aller chercher une phase lamellaire? Vous en avez un petit peu entendu parler tout à l'heure. Alors, ben, vous voyez que la composition elle est un petit peu différente. Il y a plus de cations lanthanes et strontium par rapport au manganèse. Donc, le premier réflexe, c'est que je vais rajouter plus de ces cations dans le milieu réactionnel, et puis je vais chauffer, on va voir ce qui se passe. Je chauffe à 600, ça ne marche pas. Je chauffe à 800 degrés. Je commence à voir apparaître cette phase d'après la diffraction des rayons X, mais pas encore totalement. J'ai encore des cations qui n'ont pas été insérés dans la structure. Donc là, si je travaillais en milieu aqueux, eh bien, mon premier réflexe, ça serait de me mettre dans des conditions où je vais forcer tous les cations à précipiter en même temps. Autrement dit, je me mettrais en milieu très basique. Je jouerais sur l'acido-basicité, donc la basicité de Brønsted. Là, je suis dans un autre, dans d'autres conditions, mais est-ce que je ne peux pas transposer ça en milieu sel fondu? Eh bien, plutôt que parler de basicité de Brønsted, je vais parler d'oxobasicité, c'est-à-dire de concentration en ions O2- dans le milieu réactionnel. Pour faire ça, eh bien, je peux me dire que je vais passer des nitrates, aux nitrites, puisque ces ions nitrites ont une constante de dissociation qui est beaucoup plus importante et donc vont fournir beaucoup plus d'ions O2- au milieu réactionnel. Donc en passant de l'un à l'autre, je vais augmenter la basicité du milieu et donc je devrais forcer les cations à rentrer ensemble dans la même structure. Et bien, c'est ce qu'on fait et effectivement à 800 degrés, cette fois-ci ça marche, je n'ai qu'une seule phase d'après la diffraction des rayons X. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe? Et bien, si on fait un petit bilan, on passe par un état intermédiaire qui est cette pérovskite cubique et où on n'a pas réussi à rentrer l'ensemble du strontium qu'on avait mis au départ. Et je vous épargne le raisonnement, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène de dissolution de cet état intermédiaire et ensuite, on va reprécipiter complètement tous les cations dans la même structure. Donc là, on a vraiment un effet qui est direct de l'augmentation de la basicité du milieu pour forcer tous les cations en même temps et donc un moyen de contrôler la réactivité dans le sel fondu. Alors, est-ce qu'on a développé des électrocatalyseurs intéressants pour la réduction du dioxygène en milieu aqueux? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on a, dans le cas de la phase cubique, une phase qui est un comportement électrochimique qui est extrêmement stable, ce qui est différent de particules de cette pérovskite qui ont été obtenues par d'autres méthodes de synthèse. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette stabilité? Eh bien, si on va regarder un matériau qui, après son utilisation, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit ici des franges de réseau qui correspondent à l'alignement des atomes. Donc en fait, on a un matériau qui est resté cristallin, même après un certain nombre d'heures d'utilisation, alors que ce type de pérovskite a tendance à s'amorphiser à l'utilisation. Donc comment est-ce qu'on explique qu'on conserve cet état cristallin et l'activité du matériau? Eh bien, une explication, ça serait qu'on a cristallisé, on a obtenu un objet au départ qui était très bien cristallin en utilisant les sels fondus, et donc on l'a fortement stabilisé et on évite son évolution à plus long terme. Alors maintenant, est-ce que je ne peux pas transposer ce type de raisonnement à des matériaux non-oxydes, à nouveau en utilisant les sels fondus? Donc la réponse est oui, évidemment. Voilà une première chose sur la synthèse de borure métallique. Donc cette fois-ci, on travaille dans un sel fondu qui ne contient pas du tout d'oxygène, sinon le bore réagirait tout de suite avec l'oxygène. Et je vais utiliser un borohydrure de sodium pour réduire les sels métalliques, mais aussi apporter le bore. Si je fais ça entre 300 et 800 degrés, eh bien, j'ai un moyen d'obtenir des nanocristaux pour une gamme assez variée de composés métal-bore, variée en termes de nature du métal, mais aussi de ratio métal-bore. Dans beaucoup de cas, en fait, ça a été la première fois que ces matériaux ont été obtenus à une dimension inférieure à 100 nanomètres, et ça a ouvert la voie à l'étude de leurs propriétés, notamment en catalyse. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même qu'avec ces synthèses en sel fondu, en général, on récupère une poudre. Comment est-ce qu'on peut mettre en forme le matériau pour aller chercher des propriétés bien spécifiques? Eh bien, on a travaillé là-dessus assez récemment. Je vais prendre le cas particulier de ce diborure d'hafnium, qui est un composé lamellaire, à nouveau. Et après synthèse en sel fondu, on obtient ce type d'objet, un cœur cristallin, avec une coquille amorphe qui est très riche en bore. Alors, Comment est-ce qu'on peut chercher à mettre en forme ce matériau? Eh bien, on a montré qu'on était capable de disperser ces nanoparticules dans une matrice, dans de l'aluminium ou un alliage aluminium-silicium, en utilisant des techniques classiques de métallurgie liquide, de façon à obtenir des nanocomposites à matrice métallique légère, avec une dureté qui est améliorée grâce à l'ajout de ces nanocristaux qui sont en réalité des cristaux d'une phase réfractaire. Okay ? Donc en fait, ça, c'est intéressant pour l'industrie automobile. Autre possibilité, on est parti de cette poudre pure. Et en fait, quand on utilise des techniques de frittage flash, c'est-à-dire on va forcer les particules à se coller les unes aux autres, mais tout en conservant la nanostructure, on va chauffer très vite pour éviter la croissance des grains, on va être capable de fusionner les couches amorphes des différentes particules qui vont s'approcher. Ça va nous faire une matrice dans laquelle les cœurs cristallins vont être incorporés. Ce qui est intéressant, c'est que cette phase amorphe, cette matrice, c'est un isolant thermique, et puis les nanoparticules sont, elles, des particules d'un matériau qui est extrêmement conducteur électrique à haute température. Donc là, on est en train d'ouvrir la voie vers des nanocomposites pour faire des matériaux thermoélectriques qui vont combiner conduction électrique, mais aussi isolant thermique. Alors, au-delà de la chimie du bord, on peut s'intéresser à d'autres types de matériaux, que sont les composés métal-silicium, les silicium métalliques, donc qui sont connus depuis bien longtemps, à l'état massif pour leurs propriétés pour de renfort de composites, aussi des propriétés de supraconductivité, thermoélectricité, magnétisme. Et depuis quelques années, on les voit apparaître pour des propriétés de catalyse, hydrodésulfurisation, hydrodégénation, mais aussi catalyse d'électrolyse de l'eau avec la production d'hydrogène et puis aussi l'oxydation de l'eau en milieu basique. Alors, à nouveau, ça sera intéressant d'étudier ce type de matériaux à l'échelle nanométrique, comment notamment est-ce que les propriétés d'électrocatalyse sont modifiées. Et bien, à nouveau, c'est un réel défi de synthèse, parce que les techniques habituelles de synthèse conduisent à des phases qui sont déposées sur des supports, donc on a vraiment un impact très important du support sur les propriétés, ou alors à des techniques de synthèse en milieu organique qui vont, à des températures assez élevées, contaminer le matériau avec des carbures, et donc on a un mélange de phases, et on ne sait pas exactement ce qu'on regarde. Donc est-ce qu'on peut trouver une solution en utilisant les sels fondus? Et bien, dans ce cas-là, rappelez-vous ce que je vous ai montré sur la synthèse de composés métal-bore, eh bien, on peut chercher à faire la même chose pour des composés métal-silicium. Ce que je vais faire, c'est plus utiliser une source de bore, mais utiliser une source de silicium, et ce réactif bien spécifique qui est une source de silicium moins 1, Na4SiO4, qui est donc un réducteur, mais aussi une source de silicium. Je fais la même manip en sel fondu, et ce que j'observe, c'est que je vais être capable, dans le cas du nickel ici, d'obtenir, en jouant sur la température et aussi les ratios entre réactifs, des composés Ni2SI ou NiSi avec des structures cristallines qui sont évidemment très différentes. Et à nouveau, des objets nanométriques pour des matériaux qui n'y avaient pas été répertoriés jusqu'ici. Ceci dit, il y a quand même un bémol ici, c'est le contrôle de forme et de taille qui est quand même fortement améliorable. Vous avez une distribution en taille ici qui est quand même relativement large. Est-ce que je ne peux pas chercher à améliorer ça en m'intéressant cette fois-ci non seulement aux sels fondus, mais aussi à la réactivité des nanomatériaux dans les sels fondus. Donc cette fois-ci, je vais changer un petit peu mon protocole de synthèse et je vais me poser la question, est-ce que je ne peux pas travailler en utilisant des nanoparticules comme réactifs? Donc je vais utiliser des nanoparticules de silicium, ici de 40 nanomètres de diamètre, et je vais chercher à incorporer du métal dans ces particules, donc à convertir ces particules de silicium en composés métal, silicium, en silicium métallique. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout à l'état solide. Il faudrait que je chauffe au-delà de 1000 degrés et j'aurai une énorme croissance des grains. Est-ce que je peux travailler en milieu liquide, en sel fondu, pour améliorer cette réactivité et faire que ça se passe à plus basse température? Donc voilà ce qui se passe de façon très schématique. On a une nanoparticule de silicium. J'ai un sel métallique dissous dans un sel fondu, ici un mélange de iodure alcalin. Ce qui va se passer en surface des nanoparticules, c'est que je vais réduire une partie les cations métalliques en métal zéro. La contrepartie, c'est que je vais oxyder une partie des particules de silicium en Si4+. Le Si4+ va ensuite se combiner avec les iodures du milieu réactionnel pour faire du Si4. Je vais y revenir tout de suite. Et puis, le métal, lui, il va diffuser au cœur des particules et réagir avec le silicium pour faire un intermétallique. Alors, il se trouve que ce sous-produit ici, c'est un vrai problème pour nous parce qu'il est extrêmement réactif. Et à la fin, si je veux purifier mon matériau en lavant à l'eau, il va réagir avec l'eau, faire une gangue de silice qui va englober l'ensemble des particules. Et alors là, c'est fini, je n'ai plus du tout accès à la surface. Alors comment est-ce qu'on peut chercher à s'en sortir? Eh bien, c'est là que vient une spécificité des sels fondus, parce que leur pression de vapeur saturante, très faible, me permet de travailler sous vide, donc je peux faire la synthèse en phase liquide en même temps que je pompe. Donc je peux faire ça, et cette fois-ci, en pompant pendant la synthèse, je vais extraire directement ce sous-produit réactionnel, et je vais éviter de le garder dans mon milieu réactionnel. Donc ce qui me permet, à la fin, d'obtenir, vous avez ici un exemple où on est capable d'obtenir des composés multimétalliques, nickel, fer, silicium, où on arrive à doser, à contrôler le ratio nickel-fer. Donc voilà ici des cartographies chimiques qui vous montrent que nickel, fer et silicium sont en fait colocalisés dans le cœur de la particule ici. Et vous avez ici une couche amorphe qui est essentiellement de la silice qui vient de l'exposition à l'air du matériau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail à nouveau, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on obtient des matériaux qui sont extrêmement actifs en électrocatalyse d'oxydation des ions hydroxyde en milieu alcalin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, on a une activité qui est très stable. Ceci dit, activité stable, ça ne veut pas forcément dire matériau stable. Donc il faut aller chercher un peu plus près, voir comment est-ce que le matériau évolue, s'il évolue pendant les conditions réactionnelles. Donc c'est ce qu'on a fait en analysant l'électrode à différents temps de réaction. Et ce qu'on voit, c'est qu'au contact de l'électrolyte alcalin, le matériau va s'oxyder très légèrement en surface. On le voit en spectroscopie de photoélectron X. Et ensuite, si on continue à travailler en milieu oxydant, dans les conditions d'électrocatalyse, on voit une couche de surface qui commence à se former. Et au cours du temps, cette couche va avoir tendance à croître, même si on conserve un cœur qui est cristallin. Alors, qu'est-ce que c'est cette couche? Si on utilise la spectroscopie de photoélectron X, la microscopie électronique en transmission, on arrive à voir qu'en réalité, c'est un oxyhydroxyde de nickel qui est dopé au fer. Et on sait que ce solide en fait, est extrêmement actif pour cette réaction. Donc en réalité, là, on a identifié notre catalyseur qui est l'espèce qu'on a formée en surface. Donc, ce n'est pas du tout le matériau initial, d'accord ? Donc, le silicure de surface, on peut le voir en fait comme un pré-catalyseur qui ensuite s'est transformé pour faire ce matériau de surface. Ceci dit, le fait qu'on conserve le cœur initial est aussi extrêmement important parce qu'on arrive comme ça à avoir du transfert de charge dans l'ensemble de l'électrode. Donc, on a développé en réalité un composite où toutes les composantes sont intéressantes pour faire un matériau qui est performant. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Et jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'est à chaque fois des solides qu'on connaissait, d'accord, qui étaient répertoriés. Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et aller chercher ces conditions de synthèse sous contrôle cinétique pour isoler des nouveaux solides? Je vais chercher à vous en montrer deux exemples. Premier exemple, où je vais chercher à tirer parti de la réactivité des nanomatériaux, mais aussi des sels fondus. Alors, je vais prendre un autre cas d'école, ce sont des oxychlorures, donc des composés métal, oxygène et chlore. La plupart des oxychlorures sont intéressants pour faire de la photocatalyse, de la catalyse, mais aussi pour leurs propriétés optiques, notamment optiques non linéaires. Seulement, ils ont un réel problème de stabilité chimique, parce qu'ils ont une structure lamellaire d'où les ions chlorure peuvent partir très facilement, et puis en plus, leur structure de bande, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais finalement, ce qu'a montré Jean-Marie en fait, s'applique à ces cas-là. En fait, ils ont une tendance à la photocorrosion qui est extrêmement importante, donc ils sont très peu stables. Alors, comment est-ce que je peux chercher à augmenter la stabilité de ces matériaux? Eh bien, je peux déjà chercher, plutôt qu'avoir un matériau lamellaire, à augmenter la connectivité 3D. Dans la slide d'après, je vais vous montrer comment on a fait, mais je vais déjà vous montrer ce qu'on a obtenu. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc c'est un oxychlorure de zinc et de silicium sous forme de nanobâtonnets ici et avec un diamètre entre 25 et 100 nanomètres. Toutes les techniques de cristallographie nous montrent qu'en réalité, ici, on a un nouveau solide, on a une nouvelle structure cristalline impossible de croître des monocristaux, donc il faut se débrouiller avec ce type d'objet. Donc pour ça, on a utilisé une technique spécifique de cristallographie dans un microscope électronique qui permet de faire de la diffraction sur monocristal, mais des monocristaux de 50 nanomètres. Ce qui nous a permis ensuite, par affinement en utilisant la diffraction de rayons X sur poudre, mais aussi la RMN de l'état solide, les analyses de distribution de paires en diffusion des rayons X, de proposer une structure qui est celle-ci. Donc vous avez ici des tétraèdres SiO4 et des tétraèdres en bleu zinc, oxygène, je ne vous les montre pas les oxygènes, le chlore, où les atomes de chlore en fait pontent entre deux tétraèdres. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer la formation de ce solide? Eh bien, qui est extrêmement stable comparé à d'autres types de cyclorures qui étaient connus jusqu'ici. Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans un mélange fondu NaCl, ZnCl2, qui est le milieu réactionnel, mais aussi la source de zinc. On utilise à nouveau cette source de silicium-1, il n'y a pas du tout d'oxygène, et ça nous permet de contrôler exactement la quantité d'oxygène qu'on va ajouter. Donc, on ajoute cet oxygène, en fait, en utilisant de l'eau, dans des conditions qui sont, dans des proportions qui sont bien contrôlées. Est-ce qu'on peut maintenant imaginer, si on fait de la rétrosynthèse, eh bien on peut très bien imaginer que ce tétraèdre SiO4, en réalité, il vient du silicium qui a été oxydé par cette source d'oxygène. On fait comme ça des tétraèdres SiO4. Et d'un autre côté, eh bien, le dimère ZN de zinc, de tétraèdre de zinc, avec ce chlorure pontant, eh bien, il y a des calculs de dynamique moléculaire qui ont montré que dans le chlorure de zinc fondu, on avait déjà ces dimères. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que ces dimères de tétraèdre de zinc vont réagir avec ces monomères SiO4 pour former cette connectivité 3D. D'accord ? Donc là, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que la structure du solide, elle est directement liée à la spéciation, à la structure du liquide. Autre exemple, cette fois-ci sur des non-oxydes. Si je reprends le cas des borures métalliques, je vous avais dit, j'utilise une source de métal qui est en fait un sel métallique. Cette fois-ci, je vais changer le réactif, je vais utiliser une source de carbone, un polymère, un polyéthylène tout simplement. Et je vais changer la nature du sel, je vais me mettre dans un sel NaI fondu. Eh bien, le fait d'utiliser du sodium me permet d'orienter la synthèse vers un composé qui est complètement différent, qui est un borocarbure de sodium sous forme de nanoparticules. Donc là, vous avez des clusters octaédriques B5C, et au cœur de cette structure qui finalement ressemble à une structure perovskite, on a intercalé le sodium qui vient du sel fondu. Donc là, on utilise vraiment la réactivité du sel fondu pour orienter la synthèse vers une phase bien spécifique. Et à nouveau, des objets qui sont très petits si on considère qu'on les a fait à 900 degrés, c'est quand même des objets de l'ordre de 5 nanomètres. Donc on peut aller un petit peu plus loin en se posant la question de la localisation spécifique du carbone. Et ce qu'on voit, en utilisant des modèles qui sont relaxés par des techniques de DFT et en faisant des mesures de RMN de l'état solide au bord 11, eh bien on arrive à montrer qu'il y a un modèle qui est le mieux ajusté au spectre expérimental de RMN. Eh bien c'est un modèle où la structure locale est différente du solide qui était connu. Ça, c'est l'ordre local qui est classique, en fait, un sodium avec un cluster B5C. Eh bien, en fait, ce qu'on arrive à montrer, c'est que dans ce solide, on a aussi un autre environnement qui est un autre type d'octaèdre, B4C. Donc, on a enlevé le sodium, mais pour compenser ça, il faut rajouter un électron en plus. Eh bien, ça se fait en remplaçant un bord par un carbone. Et là, en fait, j'ai créé un cluster B4C2 qui n'était jamais observé dans un réseau complètement inorganique. Autrement dit, en utilisant les sels fondus et en utilisant aussi ces conditions de synthèse relativement douces et en développant des nanomatériaux, je commence à comme ça développer des nouvelles structures étendues, je vous l'ai montré avec les oxycyclorures, mais aussi des nouveaux ordres locaux dans ce cas-là. D'accord ? Alors quel intérêt de faire ça ? Eh bien, si je prends le cas de cette phase-là, eh bien, si je la traite en température, je vais réussir à éliminer le sodium et avoir une transition de phase vers un carbure de bord de type B4C, qui est une phase super dure, C'est le terme scientifique, super dur, et qui est extrêmement intéressante pour développer des tuiles résistantes ou d'autres types de matériaux de très haute dureté. Donc là, je suis en train de développer un matériau nanostructuré sous forme d'un matériau super dur. Et on peut se douter que la présence d'interfaces avec des objets si petits devrait modifier énormément la dureté. Ceci dit, je ne peux pas utiliser des techniques de frittage classiques pour obtenir, densifier le matériau et coller les nanoparticules ensemble. Ça ne marche pas. Je suis obligé d'aller chercher des conditions beaucoup plus dures. Alors, quelles conditions beaucoup plus dures ? Eh bien, à nouveau, je vais me pencher vers les aspects géologiques et les très hautes pressions qui sont extrêmement développées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous ai montré quelques exemples au début pour des matériaux supraconducteurs, par exemple, mais aussi sur les matériaux super durs. Alors, pour ça, on utilise avec Yann Le Godec, un collègue de l'IMPMC qui est juste à côté, à Sorbonne Université, eh bien, une presse qui permet de développer des matériaux qui vont avoir un volume de l'ordre du millimètre cube. Alors, ça a l'air petit comme ça, mais en fait, c'est suffisant pour faire des études à l'échelle du laboratoire et l'ensemble des caractérisations, classiques. Donc, on utilise ce type de presse qui permet de monter à 5 gigapascal pour aller transformer les nanomatériaux qu'on fabrique en sel fondu. Alors, premier exemple pour voir si ça marche, eh bien, je travaille avec ces nanoparticules que je vous ai déjà montrées et je vais les traiter sous très haute pression, 5 gigapascal et 1200 degrés. Et là, ce que je vois, c'est qu'après transformation, eh bien, je suis capable de conserver l'échelle nanométrique des objets et en plus, j'ai pu fusionner les couches amorphes ensemble et à haute température, en m'assurant que j'ai apporté suffisamment d'oxygène au système, eh bien, cette couche amorphe va cristalliser dans une phase qui est caractéristique des hautes pressions, c'est-à-dire que je ne pourrais pas obtenir à pression ambiante. Donc là, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'à très haute pression, je suis capable de conserver l'échelle nanométrique, mais je suis aussi capable d'avoir des transitions de phase pour avoir des matériaux qui sont vraiment des solides qui sont vraiment spécifiques des très hautes pressions. Donc là, j'ai en fait une preuve de concept de cette approche nanomatériaux et haute pression. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais dépasser mon temps, mais ce qu'on peut observer, c'est que maintenant, je vais utiliser ces très hautes pressions pour aller presser ces particules les unes sur les autres, faire des joints de grains, et donc obtenir un matériau qui va être cohésif, vraiment avoir un matériau qui est nanostructuré, un monolithe. D'accord ? Donc pour ça, on travaille à 2000 degrés dans des pressions de l'ordre du gigapascal et on va utiliser à nouveau des rampes de chauffe qui sont extrêmement rapides pour éviter la croissance des grains. Donc vous voyez que finalement, à chaque fois, on va travailler sur ces profils de température. Donc en développant ça, eh bien on est capable d'avoir des matériaux qui vont avoir une dureté qui va être exacerbée. Pourquoi ? Parce que, si ça veut bien s'afficher, voilà, imaginons, j'ai deux types de matériaux, des grains microscopiques et des grains de l'ordre de 10 nanomètres. Et bien en fait, dans un cas, les dislocations, quand je vais appliquer une contrainte sur le matériau, vont être capables de se propager très facilement d'un grain à l'autre. Si j'obtiens des nanomatériaux, et bien je vais pouvoir éviter le passage d'une dislocation d'un grain à l'autre. D'accord ? Donc en fait, comme ça, je vais augmenter la dureté, ça s'appelle l'effet Hall-Patch. Et je ne vous montre pas les valeurs, mais en fait, effectivement, ça fonctionne sur ce type de matériaux. Et comme ça, on peut développer des matériaux nanostructurés et super durs. Alors, il est temps de conclure. Donc, ce que j'ai cherché à vous montrer ici, c'est que en se plaçant à la frontière entre chimie des solides et nanosciences, en fait, on peut réfléchir à des conditions de synthèse. Et là, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait s'inspirer de conditions géologiques pour en fait construire une sorte de boîte à outils pour le chimiste pour chercher à faire de la synthèse de matériaux. Donc, je vous ai montré qu'on était capable d'utiliser la réactivité, donc dans ce cas-là, essentiellement dans des phases liquides ou à très haute pression, pour orienter les chemins réactionnels et aller vers différents types de solides. Donc, on a vu des solides à composition et structure complexes. Quand je dis complexe, ça veut dire que ça diffère énormément de ce qui est étudié en général à l'échelle nanométrique, mais aussi d'un point de vue plus général dans l'industrie. Ça permet, je vous ai montré plusieurs cas où on arrive à développer de nouveaux solides avec des ordres étendus complètement différents de ce qu'on connaissait avant, mais aussi parfois juste avec des ordres locaux qui peuvent modifier certains types de propriétés, notamment de dureté. Donc évidemment, dans ce cas, je vous ai montré souvent des objets nanométriques, des propriétés améliorées, donc on a parlé un petit peu de catalyse, ou modifiées, j'aurais pu aussi vous parler de transport de spin, de magnétisme, propriétés de dureté, je vous ai expliqué qu'on pouvait chercher à augmenter la dureté des matériaux en les développant à l'échelle nanométrique. Ce qui est intéressant du point de vue du laboratoire aussi, c'est que ce type de technique de synthèse, inspirée de la géologie, en fait, permet souvent d'obtenir des matériaux à l'échelle du gramme dans un laboratoire. Donc je ne parle pas du tout de mise à l'échelle, là, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes. Mais par contre, pour un laboratoire, ça reste intéressant parce qu'on peut commencer à travailler avec ce type d'échelle. C'est très différent de ce qu'on peut développer en synthèse colloïdale, en milieu organique, où en général, on utilise vraiment, on va développer des quantités qui sont extrêmement faibles. Autre point comparé à l'utilisation de solvants organiques, c'est qu'on n'utilise pas du tout de ligands organiques pour obtenir ce type de matériaux. Ça peut être intéressant si on s'intéresse à des phénomènes de transport de charge aux interfaces, de transfert de charge aux interfaces. Eh bien là, les ligands organiques sont très souvent isolants et ça peut être vraiment un problème pour l'étude des propriétés. Donc en fait, en utilisant ce type de technique, eh bien, on évite un échec potentiel de ce point de vue-là. Autre point qui peut être intéressant en évitant les ligands organiques et les solvants organiques, c'est que finalement, même si on travaille à haute température, ben, on travaille avec des synthèses, des protocoles qui ont un impact environnemental potentiellement faible. L'exemple des sels fondus est intéressant parce qu'on peut très bien envisager, après la synthèse, de recycler les sels fondus et de les réutiliser. Donc là, il y a vraiment un intérêt remarquable, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ben, il reste à chercher éventuellement d'autres types de matériaux, donc c'est ce qu'on est en train de faire, chercher vraiment des familles de matériaux qui sont complètement différentes de ce que je vous ai montré jusqu'ici. Et puis aussi, hormis quelques cas particuliers que je vous ai présentés aujourd'hui, quand même très souvent, ce type de synthèse sont des boîtes noires. Quels sont les chemins réactionnels ? Quelles sont les réactions chimiques qui sont mises en œuvre ? Ce n'est pas vraiment évident, parce que notamment aux températures qui sont mises en œuvre, eh bien, on a du mal à trouver des sondes qui sont pratiques pour aller regarder ce qui se passe. Donc en fait là, nous et puis d'autres groupes aussi, on est en train de travailler énormément sur le développement de techniques vraiment adaptées, sur mesure pour ce type de synthèse, pour essayer de comprendre la réactivité chimique dans ces conditions-là. Voilà, alors pour finir, eh bien, je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs, évidemment au laboratoire, mais aussi l'ensemble des personnes qui ont contribué aux travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Je ne vais pas les nommer parce que je n'aurai pas le temps de le faire, donc je n'ai pas envie de choisir entre eux. Je remercie évidemment les organismes financeurs et je remercie, si les photos veulent bien se montrer, voilà, donc l'équipe, en fait, les personnes qui font le gros du travail. Donc là, vous avez des photos de l'équipe à différents temps depuis le début de cette activité. Vous avez les noms aussi ici, donc je les remercie énormément. Et les personnes qui sont impliquées plus spécifiquement sur les domaines que je vous ai montrés, vous avez vu leur nom et leur visage pendant la présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.